La première, podcast. Destination ailleurs. Corinne Boulangier.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la première, bienvenue dans Destination Ailleurs. Je vous emmène en ce samedi matin en Amazonie à la rencontre des Indiens Surui, surnommés les Indiens High-Tech. Le chef de ce peuple autochtone d'Amérique du Sud, pour lutter contre la déforestation et la menace d'extinction dont son peuple est victime, a adopté les règles de notre société des technologies et de l'économie de marché. Comment le GPS, l'équipement informatique et les mécanismes financiers sont utilisés par des Indiens d'Amazonie pour préserver leur environnement, c'est ce que nous verrons jusqu'à 10h. Bienvenue dans Destination Ailleurs.
Jusqu'à 10h sur la première, Destination Ailleurs.
Et c'est donc aujourd'hui un Destination Ailleurs en compagnie d'un invité au parcours, un peu particulier. Bonjour, Almir Narayam Ogasuroui.
Bonjour.
Vous êtes un activiste parmi les plus actifs, parmi les plus médiatisés aussi aujourd'hui, qui agit contre la déforestation de la forêt amazonienne. Vous êtes chef des Surui, peuple autochtone d'Amazonie. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un homme qui parvient à stopper la déforestation?
Bon, nous estamos lutando para isso, né?
Nous sommes sur un chemin qui va dans ce sens aujourd'hui en Amazonie, et on peut presque dire ça, mais nous avançons gentiment sur ce chemin.
Oui. À vos côtés, il y a Corinne Sombrin qui vient de signer avec vous chez Albin Michel un livre « Sauver la planète ». Alors Corinne Sombrin, vous pouvez-vous peut-être plus facilement que ce chef Surui très modeste témoigner qu'il y a aujourd'hui, on le sait, les médias en parlent depuis très nombreuses années, un énorme problème lié à la déforestation en Amazonie. Il y a de nombreuses personnes, des ONG internationales, des peuples autochtones qui tentent petit à petit de changer la solution. Certains d'entre eux parviennent à faire bouger les lignes, même un peu. Notre chef Surui, aujourd'hui, il y parvient.
Il y parvient grâce à des outils technologiques comme Google Earth, par exemple, où il a réussi, grâce à des images satellites, à montrer au gouvernement brésilien à quel point la déforestation sur leur territoire était importante. Et grâce à ça, parce que jusque-là, il le disait, mais bon, quand on voit les images, c'est mieux, le gouvernement a détaché chez eux 3 ou 4 gardes de la police pour les aider à surveiller leur territoire. Parce qu'ils ont un territoire qui fait 240 000 hectares, qui fait à peu près 20 fois la ville de Paris, 2 fois la ville de New York. Donc pour 1400 habitants, c'est beaucoup à surveiller. Et donc grâce à ça, ils ont réussi à faire fermer des scieries clandestines, une dizaine de scieries clandestines déjà. Donc ça a donné un coup d'arrêt, bien sûr, à la déforestation.
Alors je voudrais qu'on commence, si vous voulez bien, par nous plonger dans le territoire qui est le vôtre. Est-ce que vous pouvez nous décrire le territoire des Surui? Vous nous l'avez dit, c'est grand comme 2 fois New York, comme 20 fois la ville de Paris. Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on y sent? C'est la forêt amazonienne en plein cœur du Brésil, dans tout ce qu'elle a de plus classique.
Tout d'abord, on y voit de la forêt, beaucoup de forêt, parce qu'en dehors de chez nous, il n'y a plus de forêt. Ensuite, on va respirer de l'air pur, il n'y a pas de pollution chez nous, de l'air. On peut voir aussi beaucoup de très très belles choses scéniques dans la forêt. Et vous pouvez y voir la culture de notre peuple Surui.
Ouais. Et ce qui est paradoxal, c'est que si les Surui, déjà dû à l'avancée des colons, se sont réfugiés un peu plus loin dans la forêt, eh bien aujourd'hui, parce que les Blancs avancent, il y a ce territoire Surui qui est grignoté aussi par la prospection immobilière, par la prospection pour les minerais, par l'exploitation du bois. En 1969, il y avait 5000 Surui, contact officiel avec les Blancs. 2 ans plus tard, il n'y a plus que 250 Surui. C'est bien ça?
Si, isso mesmo.
C'est cela, c'est une histoire dramatique pour mon peuple. Un peuple qui court à l'extinction, c'est une histoire extrêmement triste. Nous avons souffert donc d'épidémies, de conflits et de déforestation intense. Cela a amené une grande tragédie pour notre peuple.
Mais L'histoire est en train de devenir plus positive parce qu'en 1971, chute drastique de la population Suroui, réveil d'abord de la famille du chef Almir Suroui qui est avec nous aujourd'hui, et puis de lui, et c'est ça que nous allons raconter pendant cette émission, ils ont su inverser la tendance. Aujourd'hui, Corinne Sombrin, combien y a-t-il de Suroui là-bas, sur le territoire Suroui?
Alors, ils sont à peu près 1400. Et Almir fait partie, enfin, a été le premier de sa tribu à aller à l'université. Mm-hmm. Donc, c'était pour lui quelque chose d'extraordinaire. Il a eu une bourse pour pouvoir y accéder. Et il a su se servir de cet outil pour se servir d'un ordinateur et accéder à la technologie. Et plutôt que de se positionner comme victime du contact avec les Blancs, mm-hmm. il a très vite compris que, en fait, ces technologies allaient lui apporter un outil extraordinaire et allaient lui permettre surtout de faire passer le message dans le monde entier. Et c'est la leçon qu'il nous a donnée essentiellement.
Donc, tu veux qui busca stratégie.
Alors, on a été chercher des stratégies
politiques,
techniques,
juridiques,
juridique pour tenter de dialoguer avec ce monde si différent.
Oui.
Para sobrevivência.
Pour la survie.
Et ce qui est remarquable, ce qui apparaît à chaque page de ce livre, encore une fois, que vous signez avec Corinne Sombrin chez Albin Michel, Sauver la planète, c'est qu'on vous sent nourri de toute la culture que votre père vous a donnée, de la connaissance de la forêt, et en même temps en train d'appréhender l'Occident aujourd'hui, le monde de l'économie de marché, comme si vous étiez un pont entre les deux cultures.
Eu acho que a ideia do estratégia é isso.
L'idée de ma stratégie est de pouvoir arriver à dialoguer avec deux cultures.
Tirar dos melhores
de tirer le meilleur de chacune des deux cultures
para que a gente possa lutar
afin que nous puissions lutter pour nos peuples.
Então isso também nos ensinou.
Et tous ces problèmes nous ont enseigné aussi.
Qu'il
ne faut pas juste chercher ce qu'il y a de mieux pour nous. Nous devons lutter pour la planète entière. Parce que les problèmes qui existent aujourd'hui sur la planète sont communs à tous. Et vraiment, c'est ça, c'est de dire, bien, nous voulons agir localement. Mais avec les idées de tous.
Cette ambition, Almir Suroui, que vous exprimez à l'instant, elle vous a valu votre médiatisation, elle vous a valu une reconnaissance internationale aussi. Vous avez reçu, par exemple, le prix des droits de l'homme en 2008. Mais c'est une ambition qui va forcément à l'encontre d'ambitions d'exploitation illégale de la forêt amazonienne. C'est une ambition qui vous a valu de voir votre tête mise à prix. Vous avez fait, par exemple, l'objet de protections récemment parce que vous faisiez l'objet de menaces d'exploitants illégaux de la forêt amazonienne. Corinne Sombrin, on n'en prend pas toujours la pleine mesure ici en Europe, même si on est sensible à ces questions environnementales. Mais ces questions liées à la déforestation, là-bas, en Amazonie, c'est au sens propre une question de vie ou de mort.
Beaucoup ont été assassinés déjà. L'ONU reconnaît qu'aujourd'hui, les protecteurs de l'environnement sont les plus menacés en Amazonie.
Il ne le dira sans doute pas. Vous avez le sentiment que notre chef Suroui, c'est un héros du quotidien?
Ah oui, 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 absolument. Parce qu'il ne se contente pas de parler, de donner des leçons. Il applique tout ce qu'il a dit. Il a mis au point un plan de gestion de la forêt sur 50 ans. C'est-à-dire que son but, à lui, c'est de dire, finalement, il est plus rentable de préserver la forêt que de l'abattre, que de la détruire. Alors, c'est bien joli de le dire, mais est-ce que c'est réaliste? Et donc, il a mis en place ce plan de gestion de la forêt sur 50 ans, pour lequel il est consulté dans le monde entier aujourd'hui, et qui fonctionne parce qu'il dit, on pourrait cultiver du cacao biologique, on pourrait cultiver du café. On a des ressources qui font qu'aujourd'hui, chez eux, dans le peuple Suroui, ils peuvent tirer des ressources de la forêt sans la détruire. Et ça, il l'a démontré. Et il a non seulement démontré, mais en plus, il a mis en place un plan qu'il appelle Paminé, qui met à la disposition des tribus autour de lui. Et le modèle commence à être reproduit aujourd'hui. Donc, il a aussi mis en place un plan de compensation carbone. Mais ça, je pense que vous en parlerez un peu plus
tard. Eh bien, c'est de tout ça, en effet. Dont nous allons parler maintenant, ce sera sur la première, juste après Charlie Winston, Truth. You took a step into my world, leaving all of yours behind, oh. We didn't know what would unfold, just the feeling of a good thing, so we leapt into the unknown. Took your time to understand all the ways I went. Stones.
some ups and downs, but it never stopped the flow. Even days I played the clown, you believed in me enough to let me be. Think about the man I want to be. I believe in truth. Took a long time to get there, but we made it. I made it with you. I believe in truth. Took a long time to get there, but we made it. I made it with you. I'm not gonna lie. Well, it took some time to let it go. Nothing now, I've got the flow. I believe in you.
Charlie Winston à l'instant sur la première. Merci d'être avec nous jusqu'à 10h. C'est Destination Ailleurs comme chaque samedi matin. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un invité qui m'impressionne un peu. Je dois vous l'avouer. Voilà, il y a des invités comme ça. Almir Narayamoga Sorui, chef des Sorui, peuple autochtone d'Amazonie. Vous êtes un activiste parmi les plus actifs et médiatisés aujourd'hui contre la déforestation de la forêt amazonienne. Une chose qui vous vaut évidemment d'avoir à la fois reçu le prix des droits de l'homme en 2008 et puis d'avoir aussi vu votre tête mise à prix par des exploitants forestiers de l'Amazonie. Vous êtes un homme issu de ces peuples autochtones qu'on appelle les peuples premiers, mais qui est parvenu à mettre en place, à retourner contre l'économie de marché, les armes qui sont les siennes. Et c'est tout ça qu'on va explorer maintenant. Dans cette véritable révolution culturelle, peut-être que la première chose que vous avez dû faire, c'est vous rendre compte que la forêt avait une valeur et calculer la valeur de cette forêt. Est-ce que ce n'est pas ça le déclencheur ?
C'est
ce que nous devons faire et c'est ce à quoi nous nous préparons, que nous essayons de faire. Mais pour faire ces calculs de la valeur de la forêt, il faut qu'on ait des critères sûrs.
Notre meta, notre travail, notre lutte est...
Nous pensons que notre forêt, c'est pas tout, mais c'est une partie en tout cas, nous pensons que notre forêt peut contribuer de manière très positive au futur. Et c'est surtout dans l'équilibre climatique et l'équilibre économique, ensemble avec toutes les autres forêts tropicales.
Então, dentro da floresta tem, por exemplo, tem escola que ensina
dans la forêt, as pessoas como on lidar trouve tout, en fait. C'est une école pour nous. On y trouve de quoi manger, c'est alimentaire, c'est une pharmacie, et ça nous rapporte então, aussi des revenus. Donc, il y a vraiment tout.
Corinne Sombrin, ce qui est particulier, c'est que, évidemment, la forêt est la terre nourricière, la mer nourricière qui fournit tout au peuple Sorui et aux autres peuples indigènes, évidemment. Mais pour que cette forêt prenne valeur aux yeux des Blancs, si je peux résumer ça comme ça, il faut passer par une valorisation au sens strict. Et ça, ça a été une étape indispensable. Et un géant de l'informatique, Google Earth, a aidé le peuple Sorui à faire ça. Il a fallu cartographier, recenser, identifier. Parce que c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Dans notre monde aujourd'hui, ce qui n'est pas référencé n'existe pas et n'a pas de valeur.
Mais exactement, c'est même l'aventure qui est arrivée à Almir. Lorsqu'il a eu accès à Google Earth la première fois, il a fait comme nous faisons tous, c'est-à-dire que nous zoomons l'endroit où nous habitons en général, hein, et puis on découvre ce qui se passe. Et quand Almir a fait ça, il a découvert que sur la carte de Google, il y avait écrit « territoire inhabité ». Et là, il a dit « bah tiens, je vais les rencontrer, ces gens de Google, et je vais leur expliquer qu'il y a quelqu'un qui habite vraiment sur le territoire inhabité ». C'était pas gagné du tout, hein, parce que la personne qui l'accompagnait lui a dit « tout ce que tu vas obtenir, c'est la porte ». Et il a dit « non, je veux absolument les rencontrer, débrouille-toi ». Et il a réussi à obtenir un rendez-vous avec Rebecca Moore, qui est la directrice de Google Earth Outreach, qui est la branche humanitaire de Google. Et elle lui a dit « écoutez, quand ils sont arrivés au rendez-vous, bon, là, on a une demi-heure, vous vous dépêchez et puis voilà. Et une demi-heure est passée, il a commencé à raconter son histoire et puis une heure est passée, deux heures, trois heures, quatre heures. Et non seulement tout ce temps est passé, il était toujours dans le bureau de Rebecca Moore, mais elle avait appelé tous les chefs de département, dont celui qui était responsable de Google Earth et à qui, enfin, Almire a pu dire « Mais alors, c'est qui habite là sur le terrain noir d'habiter ? C'est nous !» Donc voilà, alors est-ce que c'est normal ? Parce que nous, on a une culture, on a un combat, on fait des tas de choses super intéressantes. Il faut qu'on le sache aujourd'hui. Donc, est-ce que vous allez faire quelque chose pour nous, pour faire savoir ça ?
Alors, deux choses. Hein. D'abord, Almir Sourouy, c'est incroyable. Vous débarquez aux États-Unis, je vais aller chez Google, toc toc, et vous y arrivez. Il faut une audace mais qui est incroyable pour oser faire ça. Comment vous avez osé ?
Tout d'abord parce que je défends beaucoup le dialogue. Je pense qu'il n'y a qu'avec le dialogue qu'on arrive à construire. Et je pense que, d'autre part, la technologie est un instrument extrêmement important pour construire un avenir à moyen et à long terme. Et Google est capable de construire cette conscience très, très, très rapidement avec l'accès qu'ils ont au monde. Alors, ce que je leur ai demandé particulièrement, c'était de nous entraîner, pas juste de faire quelque chose pour nous, mais de nous donner la capacité d'utiliser leurs outils. Parce que de passer ainsi à l'action avec les protagonistes, eh bien, c'est comme ça qu'on arrivera à contribuer le mieux à sauver notre forêt. De son côté, Google a une vision technologique et mon peuple et moi, nous avons une vision environnementale. Social et ensemble, nous arriverons à construire quelque chose pour un futur meilleur.
Oui. Corinne, ça c'est fondamental à comprendre, c'est que venant du fin fond de la forêt amazonienne, il a vraiment fallu, et c'est remarquable hein, dans la manière dont le chef Sourouy et les siens ont accepté cette révolution culturelle, il a vraiment fallu se rendre compte que pour exister, pour venir un acteur dans le monde et plus quelqu'un qui subit la déforestation en l'occurrence, il fallait accepter de vivre selon les codes de la société occidentale en l'occurrence.
Exactement, et trouver les moyens qu'utilise la société occidentale, ça il l'a très très bien compris. Et il faut pas oublier qu'ils sont un peu moins de 0,5%, ils représentent un peu moins de 0,5% de la population, les Indiens. Donc au niveau électoral, c'est négligeable, ouais. D'accord ? Donc personne ne va les écouter. Donc il a compris qu'il fallait utiliser d'autres moyens qui permettraient de faire entendre leur message. Voilà, c'est aussi un de ses grands combats, c'est trouver les médias qui vont leur permettre de faire savoir ce qui se passe en Amazonie en ce moment et de faire savoir à quel point c'est en danger. Il faut bien comprendre que l'Amazonie, c'est 6 millions de kilomètres carrés, ce qui représente les 3/5 du continent européen. Vous vous rendez compte ? Donc on annonce que dans 100 ans, ça aura complètement disparu si ça continue au rythme actuel. Vous imaginez les conséquences sur le climat si on rasait la forêt des 3/5 du continent européen en moins de 100 ans. Donc c'est de ça qu'il parle aussi.
Ouais. Alors, pratiquement parlant, le fait de passer ainsi à une ère technologique, de se servir des moyens technologiques, ça a eu des conséquences très concrètes. Par exemple, en cartographiant, en recensant grâce à Google Earth, en donnant une existence au territoire Sourouy, vous avez pu développer des contrats carbone. Ça vaut la peine de rappeler ce que c'est. Le marché du carbone permet à certains grands pollueurs, si je peux résumer la situation comme ça, de compenser leur activité en investissant, en s'engageant à protéger certaines portions de l'environnement, en l'occurrence de la forêt amazonienne. Et c'est une manière de se dédouaner, entre guillemets, de leur activité de pollueur. Ils s'engagent, à l'inverse, à ne pas toucher à certains endroits de l'environnement à protéger. Les Sourouy sont parvenus à faire en sorte que leur territoire soit un de ces endroits à protéger quelque part. On paye les Sourouy pour ne pas abîmer leur forêt. C'est un peu ça.
Exactement. Almir a réussi ce pari incroyable. Et aujourd'hui, ils sont le premier peuple indigène à gérer eux-mêmes leur carbone. Et il y a des sociétés polluantes, dont la FIFA, par exemple, récemment, qui leur ont acheté des crédits carbone. Mais Almir a dit, on va vendre des crédits carbone, mais pas à n'importe qui. Il faut que les sociétés qui nous achètent ce carbone, qui compensent leur pollution en nous achetant ce carbone, s'engagent à diminuer aussi leur pollution. Voilà.
Et en plus, c'est un marché du carbone que les Sourouy ont utilisé sans naïveté. Ce marché du carbone, en fait, il a généré des effets pervers en permettant à des acheteurs de contrats carbone de poursuivre impunément, voire parfois même d'augmenter leur dégradation de l'environnement par ailleurs. Eh bien, tenant compte de ces effets pervers, les Sourouy choisissent selon des critères très stricts les entreprises qui peuvent prétendre à leur acheter leur contrat carbone. Pas si naïf, hein, décidément. Eh bien, je vous propose, chef Sourouy, d'aller à la rencontre de vos hommes là-bas, au cœur de l'Amazonie. Sur le terrain, nous allons partir à la pêche, mais vous allez l'entendre, c'est une pêche avec GPS intégré.
À l'heure où les arbres libèrent les nuages, il faut s'enfoncer dans la jungle avec les Indiens de la tribu Surui. 3 heures d'une marche chaotique et à l'affût. Au bout du chemin, le Rio Branco. Mopig Mori a le geste précis, mais très vite, la partie de pêche se transforme en une expérience. Des téléphones portables dernière génération surgissent en pleine forêt amazonienne.
Je note le nom du poisson en portugais et en langage surui. Au village, j'explique aux enfants qu'il faut recenser tout ce qu'il y a dans la forêt.
Voilà, de retour à Bruxelles après cette plongée au cœur de la forêt amazonienne aux côtés d'Indiens Surui à la pêche. Nous sommes ce matin dans Destination Ailleurs en compagnie du chef des Indiens Surui, des Indiens que l'on surnomme les Indiens high-tech, depuis que leur chef, qui est avec nous ce matin, a utilisé les nouvelles technologies et les méthodes de l'économie de marché pour lutter contre la déforestation et contre les menaces dont son peuple est victime. C'est une aventure qui est racontée dans un livre « Sauver la planète » qui est publié chez Albin Michel, qui est signé Corinne Sombrin et Almir Surui, qui sont nos invités ce matin. Alors, Almir Surui, ce qui a été important aussi dans cette mutation culturelle qui a été la vôtre pour lutter contre ceux qui dégradaient votre forêt, et qui la dégradent toujours d'ailleurs, ça a été aussi de faire comprendre à vos Surui qu'ils devaient réfléchir sur le long terme. Les exploitants forestiers avec lesquels ils sont en contact proposent aux peuples autochtones des rétributions contre les matières naturelles qu'ils prélèvent. Ces rétributions sont en fait des arnaques, elles sont tout à fait sous-évaluées, mais les Indiens s'en contentent, évidemment. Il a fallu expliquer à vos Surui que ces gains immédiats en échange de coupes d'arbres, eh ben, c'était pas du tout un gain en réalité.
C'est difficile parce que nulle part on obtient 100% d'approbation sur une idée. J'adore les défis et ainsi, si j'arrive à vous convaincre qu'il faut faire quelque chose pour le bien, je vais aller jusqu'au bout.
Lutter até o fim. E hoje eu acho que.
Et quand je dis, par exemple, que nous nous attaquons à la reforestation de notre territoire Surui, eh bien, je parle d'une action tout à fait concrète. Nous avons déjà replanté plus de 170 000 arbres en 10 ans.
Et
nous avons l'intention de planter 1 million d'arbres, mais en faisant cela, bien sûr, cela va remettre en cause des tas de choses à tous les niveaux, que ce soit économique, social et environnemental. Et c'est une expérience en fait formidable à laquelle je soumets mon peuple.
Et quand il parle de planter des arbres, ce n'est pas les planter n'importe comment non plus, parce qu'il y a eu des tas de scandales en Amazonie où les gens plantaient des eucalyptus partout. Or, les eucalyptus n'ont pas poussé si ce n'était pas leur terre d'origine. Alors, sur leur territoire, ils ont repéré les essences qui avaient été abattues et ils ont replanté les essences qui avaient été abattues à l'endroit où elles avaient été abattues, de façon à ce qu'elles aient le plus de chances possibles de pousser à cet endroit-là. Donc, c'est de cette conscience-là qu'ils parlent et c'est de cet exemple d'une conscience verte, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tout n'importe comment. Et eux, les gardiens de la forêt, savent très bien comment gérer cette forêt, justement. Et c'est en ça qu'ils disent, bon, nous, vous nous avez donné des instruments technologiques aujourd'hui, vous nous permettez de passer le message, mais aujourd'hui, écoutez-nous, on a une expertise de la forêt. On sait comment faire. La forêt, c'est notre futur. Si vous continuez comme ça, c'est tout ce qui va vous rester pour peut-être sauver l'humanité et lui donner les ressources dont elle aura besoin. Donc voilà, écoutez ce qu'on a à vous dire aujourd'hui.
Mais les Surui ont dû trouver aussi le moyen de devenir des gestionnaires de la forêt et donc passer, Corinne Sombrin, d'une connaissance un peu empirique de leur forêt qui était là depuis toujours jusqu'à une connaissance scientifique de gestion de la forêt. C'est ça le changement culturel qu'ils ont dû faire aussi.
Exactement, et ça c'est vraiment aussi grâce à Almir qui rencontre des scientifiques. Aujourd'hui il est docteur honoris causa de l'université, donc il rencontre des scientifiques, il sait qu'ils ont une connaissance à leur apporter, il rencontre des gestionnaires, il rencontre toutes sortes d'experts qui peuvent leur apporter une meilleure connaissance de la gestion de tout ça. Et il fait un mix de cette connaissance, forcément qui est le meilleur de chacune des traditions et des populations, et il propose un modèle qui est réaliste, qui est viable et qui fonctionne et qui donne envie à d'autres tribus et qui devrait nous donner envie de reproduire l'exemple parce que ça marche.
Ça marche en tout cas et ça donne la preuve qu'on peut vivre d'une exploitation raisonnée de la forêt qui permette de ne pas tuer cette forêt en même temps. Ça, c'est vraiment la prise de conscience fondamentale qui a tout changé.
Exactement. C'est la forêt a des nombreuses ressources que vous, Blancs, ne connaissez pas, mais nous, on les connaît. Donc, en gérant correctement ces ressources, aujourd'hui, ils ont mis en place aussi un biomonitoring de leur territoire, c'est-à-dire qu'ils savent en temps réel quels sont les animaux qui sont en surpopulation, quels sont ceux qu'il ne faut pas tuer, quels sont ceux... Donc, ils ont mis en place tout ça qui est vraiment... Bon, pour moi, j'ai été tellement émue quand j'ai découvert le travail qu'ils ont fait, que ça m'a vraiment donné envie d'écrire ce livre avec Almire et de lui donner la parole pour nous raconter cette incroyable aventure.
Ouais. Alors il y a encore deux choses que je voudrais aborder avec vous. C'est d'abord le changement même au niveau de l'organisation politique des Sourouis. Et puis c'est cette espèce de feeling geek qui fait qu'aujourd'hui, les nouveaux médias, mais vous utilisez ça, YouTube, Facebook, comme si vous étiez né là-dedans. Les technologies sur le plan de la communication, c'est un outil que malin comme un singe, vous avez trouvé le moyen d'utiliser aussi.
Oui, bien sûr, nous utilisons ceci, mais je pense que c'est, on a dû déjà d'abord clarifier pourquoi nous voulions utiliser ces technologies. Et nous l'avons clarifié très précisément. Voilà, nous utilisons, nous avons le site Paiter Souroui sur Facebook, nous utilisons Twitter et nous utilisons même Skype tous les jours.
Mais ce n'est pas juste pour le plaisir, c'est vraiment à des fins de communication et d'action. Vous ne dites pas n'importe quoi sur Facebook, sur Skype, c'est vraiment de la communication organisée comme les entreprises, comme les États aujourd'hui le font.
Nous avons nos groupes de jeunes Sourouï qui sont eux chargés de justement de récolter les informations, de les préparer pour qu'elles soient divulguées. Nous faisons ça collectivement aussi.
En même temps, il y a l'enseignement des arbres. Parce que moi, la première fois que je suis allée voir Almire, il m'a dit, écoute, les arbres parlent. Et on raconte dans le livre comment son père a expliqué à Almire que bon, ben, pour que les arbres parlent, il fallait d'abord les respecter et aussi leur faire confiance. Et alors, il y a une histoire qui est très, très, très moderne finalement. C'est qu'un jour, un chef de clan part à la guerre et l'arbre Pacob lui dit, mes enfants, où allez-vous ? Et le chef n'écoute pas l'arbre et il part et ils se font tous tuer. Et Almire me raconte cette histoire et il me dit, bah, tu vois, aujourd'hui, c'est la question qu'il faut se poser. Si l'arbre veut bien nous parler encore aujourd'hui, il va nous poser cette question, mes enfants, où allez-vous ? Et pour construire un futur, il le disait tout à l'heure, il faut vraiment se poser cette question, c'est quel futur on veut ?
Une dernière question, parce que le temps passe. Almire Sourouy, quel est votre rêve pour l'année prochaine ou bien pour le reste de votre vie ?
Meu sonho é...
Mon rêve est que le monde soit plus conscient, plus durable. Ça va aider à valoriser la forêt et ça va aussi aider à valoriser la culture de mon peuple qui doit rester vivante. Alors je parle toujours du futur, mais mon rêve, c'est en fait que tous les leaders, moi y compris, tous les leaders du monde arrivent un jour à se mettre ensemble pour imaginer, pour nous imaginer un futur.
Et nul doute, Amir Sourouy, qu'après votre plan carbone, après les changements de votre organisation politique, après le plan de reforestation de votre territoire, après toutes ces actions concrètes que vous avez mises en place, il y en a d'autres encore qui vont naître dans votre esprit d'homme d'action. On aurait pu en parler encore pendant des heures avec vous, mais voilà, il nous faut nous séparer ici. Ceci étant, Destination Ailleurs n'est pas terminée. Et il n'y a pas que les Sourouis qui utilisent aujourd'hui les moyens technologiques pour œuvrer à la protection de l'environnement. Dans un instant sur la première, c'est ça que je vous propose d'exposer, c'est juste après ceci. Merci, Almire Sourouy. Et merci à vous aussi, Corinne Sombrin.
Destination Ailleurs.
Destination Ailleurs. Entre 9 et 10 heures sur la première.
On approche doucement de 10 heures sur la première. C'est Destination Ailleurs avec vous comme tous les samedis matins. Et je vous propose à présent d'élargir le champ au-delà de l'Amazonie où nous étions depuis 9h15. Si l'on a dit que les Indiens Sourouy étaient parmi les premiers Indiens d'Amazonie à utiliser les nouvelles technologies dans la lutte, dans leur lutte contre la déforestation, ils ne sont pas les seuls, évidemment. Je vous propose à présent de faire un petit tour des innovations technologiques en lien avec l'environnement, avec Marcus Godard. Bonjour Marcus Godard.
Bonjour.
Vous êtes un des collaborateurs de NetExplo, un observatoire indépendant d'information et de réflexion sur les nouveaux usages des nouvelles technologies. Chaque année, c'était le cas en février dernier, vous partagez le résultat de vos observations au sein de l'UNESCO. Et en ce samedi matin, vous avez fait un petit tour pour nous de quelques innovations de par le monde, un petit tour non exhaustif évidemment, que l'on trouve en lien avec l'environnement. Par exemple, si vous deviez nous parler de smartphone ange gardien des arbres, qu'est-ce que vous nous diriez? Qu'est-ce que c'est que cette innovation?
Alors, c'est une innovation qui est venue d'un jeune Américain et il s'est né de son amour pour les grands singes, notamment des gibbons. Ce monsieur s'appelle Topher White et il y a quelques années, il visitait des réserves de singes en Afrique. Et les gardiens l'ont informé que les arbres se faisaient abattre de façon tout à fait illégale. Mmh. Ils avaient beau patrouiller en journée et la nuit, mais la destruction de l'habitat des singes n'était observée qu'à plusieurs heures, voire plusieurs jours après les faits. Alors, ce monsieur qui s'appelle Topher White, il s'est rendu compte que même s'il n'y avait pas d'infrastructure ou pas de route dans ces régions, il y avait quand même une couverture de téléphone portable.
D'accord.
Donc, il s'est posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le réseau de téléphonie mobile pour protéger la forêt?
Pour mettre des mouchards, en quelque sorte.
Absolument. Donc, il a créé par la suite un ONG qui s'appelle Rainforest Connection. Et le principe est le suivant. Ils utilisent des téléphones portables recyclés. Ils les équipent d'un panneau solaire pour que ça puisse fonctionner sans être rechargé par une prise électrique, bien sûr. Mm-hmm. Et à l'intérieur du téléphone portable, il y a un petit logiciel qui, grâce au micro, reconnaît le son de l'abattage des arbres, c'est-à-dire le son des tronçonneuses.
Ah d'accord, qui identifie un son spécifique et quoi? Qui émet une alarme quand
Absolument.
Il y a un son de ce type-là?
Dès que ce son est détecté dans un rayon de jusqu'à 1 km, ces mouchards qui sont perchés très haut dans les arbres envoient un texto aux gardiens de la forêt pour qu'ils puissent intervenir dans l'heure qui suit, plutôt que dans quelques jours, ce qui est le cas quand on doit observer par satellite.
Ah oui. Un autre exemple, ce sont des imprimantes 3D. Dieu sait que c'est un secteur qui est en plein boom et en plein développement, mais des imprimantes 3D qui sont fabriquées à base de matériaux recyclés et qui sont vraiment des appareils très légers, très simples.
Oui, tout à fait. Là, c'est toujours dans un esprit d'innovation frugale, voire de système D. Il y a une communauté qui s'est créée à Lomé, au Togo, où des jeunes enthousiastes à la technologie africains essaient de trouver des solutions aux problèmes de leur communauté et de leur ville par la collaboration et grâce à la technologie. Et plus particulièrement, ils ont vu qu'il y a des tonnes et des tonnes de déchets électroniques que les pays développés envoient pour traitement et pour recyclage. Ils se sont rendus compte qu'en prenant des composantes jetées, par exemple d'anciennes imprimantes, d'anciens scanners, d'anciens ordinateurs qui ne servaient plus à rien, ils pouvaient assez facilement créer une imprimante 3D en ne devant acheter que quelques pièces de base et ensuite utiliser cette imprimante 3D pour fabriquer localement des objets. Et pour créer des objets, ils envisagent même de créer des prothèses avec ces imprimantes 3D à base d'éléments recyclés.
Ouais, c'est vraiment, comme vous disiez, de l'innovation frugale. Pas du tout le même genre de récupération de matériaux, mais récupération d'énergie. C'est aussi un secteur qui fait l'objet de beaucoup d'innovations et de recherches technologiques aujourd'hui. Par exemple, une société a développé un petit sparadrap qui permet de récupérer la chaleur du corps et de la transformer en énergie pour charger un smartphone, par exemple.
Ah oui, tout à fait. Alors là, il s'agit d'une innovation qui s'appelle the wearable thermal element, c'est-à-dire le thermogénérateur portable qu'on porte sur soi. C'est créé par des chercheurs ou KAIST de la Corée, une université très, très renommée sur le plan technologique. Cette équipe de chercheurs en Corée a développé un système pliable qui s'adapte à la peau et qui récupère la chaleur du corps humain pour créer de l'électricité. Alors, l'utilisation de la chaleur pour créer l'électricité, ce n'est pas nouveau, mais jusqu'à présent, c'était très rigide, c'était assez lourd, c'était difficile de l'intégrer à des systèmes aussi souples. Donc, ils envisagent d'en faire, par exemple, quelque chose en forme de sparadrap, ou même de l'intégrer aux vêtements directement. Et ça permettrait de recharger un appareil en partie grâce à la chaleur du corps, c'est-à-dire sans avoir à le brancher sur une prise électrique au moins pendant quelques heures.
Ouais, et sans devoir produire d'énergie à base de ressources, qu'elles soient fossiles ou nucléaires par exemple. Alors Marcus Godard, il y aurait d'autres exemples hein, comme ça que l'on pourrait parcourir avec vous. Et par exemple dans ce secteur des smart grids aujourd'hui qui sont cette mise en réseau de la gestion de l'énergie où l'on partage, où l'on régule l'énergie. Je crois que vous auriez pu nous parler par exemple d'une innovation technologique qui permet de déclencher le chauffage dans une pièce à mesure qu'un corps y arrive ou pas et donc qu'on ait besoin de ce chauffage. Mais je voudrais profiter des quelques minutes que je peux encore passer avec vous, Marcus Godard, pour tirer quelques conclusions de ce que vous observez dans le monde. Vous nous avez parlé d'innovations technologiques qui sont de l'ordre du recyclage et d'autres innovations technologiques qui ont, elles, l'air d'être émises par des sociétés beaucoup plus développées, beaucoup plus matures et sans doute où le souci de récupérer, de recycler n'est pas le même. Est-ce qu'on ne voit pas de tendance comme ça, une tendance au recyclage qui serait vraiment bénéfique pour l'environnement et une tendance au gadget, à l'innovation gadget qui, elle, prendrait finalement moins en compte la préservation de l'environnement?
En fait, l'une des particularités de l'Observatoire NetExplo, c'est d'observer l'innovation technologique partout dans le monde. Et nous nous disons souvent dans notre équipe qu'on voit passer beaucoup d'innovations qui sont très gadgets, qui sont peut-être très ludiques, mais qui n'apportent pas grand-chose à la société ou à l'économie ou à l'environnement. Mmh. Et c'est souvent le cas avec les innovations de la Silicon Valley, qui sont dans une logique très créative, ouais, mais pas forcément très significative. En revanche, on voit partout dans les pays en voie de développement l'utilisation de la technologie numérique, même dans ses formes les plus simples, par exemple la téléphonie mobile, pour régler des problèmes qui ne se posent pas forcément de la même façon.
Où avez-vous le sentiment qu'il y a le plus de créativité aujourd'hui? Est-ce au fin fond de l'Afrique où il s'agit de faire une preuve de créativité pour répondre vraiment à de vrais besoins? Ou bien est-ce, comme on se l'imagine parfois, au cœur de la Silicon Valley, là où on est super équipé?
Si on parle de créativité, peut-être que le centre mondial, ça peut être la Silicon Valley, mais si on parle de créativité significative, une créativité qui a du sens, c'est surtout dans les pays en voie de développement qu'il faut chercher.
D'accord.
Où on voit des innovations qui apportent vraiment quelque chose à la société en se servant très souvent de la technologie les plus simples.
Eh bien voilà, c'était un petit peu le sentiment que j'avais aussi en vous entendant nous promener comme ça dans ces quelques innovations technologiques. Un tout grand merci Marcus Godard d'être venu compléter le panorama que nous faisions en ce samedi matin de la manière dont les nouvelles technologies sont en lien ou au service de l'environnement. Merci beaucoup.
Merci.
La première. Podcast.